J'ai terminé ma thèse que j'ai faite au Venezuela sur une catastrophe qui concernait des coulées de boue en 1999. J'ai remarqué que se mettaient en place des tas de programmes, de projets, d'outils. Il m'a semblé intéressant de se pencher sur les acteurs qui mettaient en place ces dispositifs, qui pouvaient être à la fois des acteurs nationaux vénézuéliens, mais aussi des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, des acteurs de tout type. Et j'ai eu envie de comprendre comment ces acteurs comprenaient les catastrophes, comment ils les interprétaient et comment cela pouvait influencer les outils qu'ils développaient sur des terrains locaux. J'ai lancé cette enquête qui a duré 7 ans, qui est une enquête ethnographique, c'est-à-dire qui a impliqué de s'immerger dans ce monde des professionnels des catastrophes au niveau international, à plusieurs niveaux et sur plusieurs scènes. J'ai commencé par enquêter dans une agence de l'ONU, dans l'agence de l'ONU qui est en charge de la réduction des risques de catastrophes, qui est basée à Genève. Et donc, je me suis familiarisée avec leur monde, leur bureau, leur langage, leurs documents. Mais j'ai très vite compris que ça n'allait pas suffire à mon enquête et qu'il fallait aussi bouger, suivre les outils que cette agence pensait, mettait à disposition sur un certain nombre de terrains. Et j'ai donc suivi, c'est l'injonction de l'ethnographie multisite, donc j'ai suivi des personnes, j'ai suivi des programmes, j'ai suivi des outils sur différents terrains en Amérique latine. J'ai été au Mexique, j'ai été au Pérou, j'ai été au Venezuela au début de mon enquête, j'ai été rapidement en Haïti, je suis allée aussi au Japon et j'ai suivi également des conférences internationales qui étaient organisées par les acteurs de ce monde et qui réunissaient l'ensemble des acteurs qui disaient qu'ils faisaient de la réduction du risque de catastrophe. Et à travers ce dispositif d'enquête, ce que j'ai pu mettre en lumière finalement, c'est que on assistait à la fabrique d'un monde international, mais à partir de visions très différentes de ce qu'est une catastrophe, selon qu'on est par exemple un secouriste ou un géographe, selon qu'on est membre d'une ONG qui fait du développement urbain, ou que l'on est un géomorphologue ou un physicien de la Terre, on n'a pas du tout la même idée de ce que c'est une représentation de ce que c'est qu'une catastrophe. Et donc en fonction de ça, on a la pensée de l'intervention est très différente, les temporalités sont très différentes. Et ce qui ressort de mon enquête, c'est que finalement, ces acteurs, bien qu'ils aient des visions très différentes d'une catastrophe, parviennent à configurer un monde avec ses codes, ses langages, ses glossaires pour se mettre d'accord sur les définitions, ses outils internationaux, ses standards, mais que la construction de ce monde n'apaise pas les tensions et les disputes entre ces visions différentes des catastrophes. Et que donc on a la stabilisation de quelque chose au niveau international, mais qui ne stabilise pas et qui n'apaise pas du tout les frictions. Ce que le livre permet de mettre en lumière, ces deux grands cadrages des catastrophes qui vont mener à des formes d'action différentes. Le premier, c'est le cadrage de la préparation, qui pense la catastrophe dans une temporalité relativement courte, comme un événement brutal, extérieur à la société, qui vient s'abattre sur la société et qu'il va falloir du coup réparer, et auquel on va se préparer, mais dans lequel on va intervenir dans un temps très, très rapide, sur les secours, l'assistance, sauver des vies, etc. Et puis on a un deuxième enjeu qui est l'enjeu du plus long terme, on va dire l'enjeu de la résilience. C'est des gens qui se représentent la catastrophe plutôt comme quelque chose de cyclique, qui est susceptible de revenir, pas seulement comme un événement brutal, comme quelque chose qui est produit par la société elle-même et qui n'est donc pas un phénomène extérieur à la société, mais qui est le produit de choix faits par la société. et sur lequel on va pouvoir agir non plus seulement dans un temps très court de l'anticipation ou de l'urgence, comme c'était le cas dans le cadrage de la préparation, mais dans un temps beaucoup plus long qui implique des politiques d'urbanisation, des politiques de développement, des politiques de santé, des politiques à plus long terme pour à la fois se remettre, mais également améliorer les conditions qui précédaient à la catastrophe. Donc c'est le cadrage de la résilience. Alors évidemment, on est abreuvé de nouvelles sur des catastrophes qui se déroulent dans le monde à peu près tous les jours, toutes les semaines. On reçoit des images et de ce type d'événements destructeurs. Je pense que ce livre permet de prendre une certaine distance avec la violence de ces phénomènes, de comprendre les professionnels et les façons de faire des professionnels qui sont engagés dans ce champ. On a tendance beaucoup à dénoncer de façon cyclique la mauvaise répartition de l'aide, la mauvaise préparation, le peu de capacité de résilience des sociétés. Et en entrant par le travail de ces professionnels, par les carrières de ces professionnels, on comprend un petit peu mieux les freins, les dynamiques dans lesquelles ils sont, les raisons qui les accompagnent. Et qui leur permettent de se positionner par rapport à ces événements. Donc, je pense que c'est un livre qui fait écho et qui ralentit quelque peu la vision que l'on peut avoir d'une succession effrénée de catastrophes qui se répètent. En entrant par ces professionnels, on entre un petit peu dans le détail et dans les coulisses peut-être du fonctionnement de ce monde.